Je voudrais faire une, ouais, un peu une continuité de ce qu'on a vu mardi dernier. On s'est arrêté sur cette parole de l'apôtre Paul. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Notre Dieu est hors limite. Souvent, c'est nous qui le limitons inconsciemment. Mais je pense que c'est bon encore ce soir de proclamer que Dieu est tout puissant et ce qu'on vient de chanter, ça résume un petit peu ce qu'on va voir ensemble. Il est plus grand que tous mes ennemis. Alléluia. Et ce soir, je voudrais m'arrêter avec vous sur quelques textes qui m'ont encouragé, qui m'ont fait du bien et je voudrais que ça puisse nous faire du bien ce soir. Regardez avec moi un premier texte. Alors bien sûr, ce n'est pas un passage forcément sur lequel on a l'habitude de s'arrêter. Deux Chroniques, chapitre 13. Deux Chroniques, chapitre 13. On va lire les 18 premiers versets, donc on va faire une lecture un petit peu plus longue que d'habitude. Mais vous allez voir, il y a quand même des choses intéressantes pour nous. Et toutes ces histoires, elles ne sont pas là simplement pour nous remplir la tête. Elles ne sont pas là pour faire de nous des historiens de la Bible. Mais elles sont là pour nous servir aujourd'hui. Voilà. Et quelque part, quand on retranscrit ça aujourd'hui, on se rend compte finalement qu'on vit les mêmes choses, bien sûr dans d'autres circonstances, mais on vit les mêmes choses. Voyez. Alors regardez, 2 Chroniques 13, verset 1er. Il est dit ceci, la 18e année du règne de Jéroboam, Abija, c'est lui qui m'intéresse, régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem, sa mère s'appelait Micaja, fille d'Uriel de Guidéa. Il eut guerre entre Abija et Jéroboam. Abija engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite vaillants guerriers. Du haut du mont Tsemaraïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abija se leva et dit « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël, ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. » Roboam était jeune et craintif, et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David, et vous êtes une multitude nombreuse. Et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Et ne vous êtes-vous pas fait des prêtres comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être consacré devenait prêtre de ce qui n'est point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant, nous mettons les pains de proposition sur la table pure, et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu, et vous, vous l'avez abandonné. Voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous, enfants d'Israël. Ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade, et ses troupes étaient en face de Juda qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda, s'étant retournés, eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abija et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre ses mains. Abija et son peuple leur firent éprouver une grande défaite, et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps, et les enfants de Juda remportèrent la victoire, parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Amen. Voilà. Alors c'était un peu plus long que d'habitude, mais c'était nécessaire. Ce que je voudrais faire ressortir ce soir, c'est un principe spirituel qui est toujours valable aujourd'hui, qu'on retrouve ici, mais qui est encore valable pour nous aujourd'hui. À savoir que dans tous nos combats, dans toutes nos luttes, dans toutes les batailles que nous menons, bref, dans tout ce que nous avons affronté encore aujourd'hui dans nos vies, quel que soit le nom que ça porte, je crois que c'est important de réaliser que ce ne sera jamais une affaire de chiffres, une affaire de statistiques, une affaire de pourcentage, une affaire de tendance. Jamais. Et je crois que ça c'est important de le réaliser, mais ça sera toujours d'abord une affaire de cœur, une affaire de disposition de cœur, une affaire de crainte de l'Éternel, une affaire d'obéissance à Dieu et d'obéissance à sa parole. Ça sera toujours ça, ce qui sera le plus important. Et ici, ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est notamment ce qui se passe au verset 3. Parce que si vous avez fait attention, c'est vrai qu'on a lu un texte un peu long, il y a des fois des noms un peu accouchés dehors, alors on a du mal à les prononcer, enfin bref. Mais au verset 3, il est dit « Il eut guerre entre Abija et Jéroboam. Abija engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille avec lui contre 800 000 hommes d'élite vaillants guerriers. » Alors moi, je ne suis pas très fort en maths, hein, c'est pour ça que je ne sais pas où mon fils il a pris ça. Enfin, lui, les chiffres, c'est son truc, pas moi. Mais... si je fais le calcul, Abija, ils sont moitié moins. 400 000 d'un côté, 800 000 de l'autre. Donc c'est un pour deux, quoi. Vous voyez, la bataille, ça s'engage mal. La tendance, elle n'est pas bonne. Voyez. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez fait attention, moi, ça m'a interpellé. Il est dit que malgré le nombre, malgré le fait qu'ils étaient deux fois moins, c'est Abija qui engagea les hostilités. Je ne sais pas si vous avez fait attention. C'est lui qui a engagé les hostilités. Vous voyez, on aurait peut-être pu penser qu'il aurait été sur la défensive, qu'il aurait attendu, mais c'est lui qui engage les hostilités. Alors, de deux choses l'une. Ou il était fou, ou il était présomptueux, plein d'orgueil. Vous voyez, le gars un peu... Et qui se dit, on va y aller, voilà, sûr de lui, imbu de lui-même. Ou alors, il y avait autre chose. Et cette autre chose, c'est que je crois qu'il avait compris ce principe que je viens d'énoncer. C'est que ce n'est pas une affaire de chiffres, ce n'est pas une affaire de tendance, c'est d'abord une affaire de cœur. C'est d'abord une affaire de marcher avec Dieu, de crainte de l'Éternel. Voyez. Et ça, je vais y revenir, ça vous le retrouvez ailleurs. C'est ça, vous allez voir, ce soir je vais vous parler de pas mal de chiffres, vous allez voir, parce que quand la Bible insiste sur les chiffres, ce n'est pas pour, remplir les pages, hein. C'est pour nous faire comprendre des choses. Alors par exemple, on le voit ici, mais regardez, vous allez au chapitre 14, toujours de ce deuxième livre des chroniques, là vous avez le fils d'Abija, Asa. Asa, on en parlera un peu dimanche matin. Asa, qui a été un bon roi, enfin, du moins pendant une bonne partie de sa vie, malheureusement il a mal fini, mais pendant qu'il marchait bien avec Dieu, à un moment donné, lui aussi, il s'est retrouvé dans un combat. Voyez. Alors je ne sais pas s'il s'est souvenu du papa, mais toujours est-il que lui aussi, à un moment donné, il s'est retrouvé dans un combat sacrément déséquilibré. Alors regardez, 2 Chroniques 14, verset 7, il est dit, Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda. Alors comptez, hein. Portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Donc ça fait 580 000. Et en face, Zérach l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes. D'un million d'hommes. Et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsefata. Vous savez, il fait comme son père. Asa marcha au-devant de lui. C'est encore lui qui y va, voyez. Et regardez, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » Il est dit, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Ils étaient quasiment deux fois moins, et pourtant c'est eux qui ont remporté la victoire. Pourquoi ? Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas une affaire de chiffres, ce n'est pas une affaire de statistiques, de tendances, de pourcentages, ça n'a rien à voir avec ça. Et vous avez remarqué que non seulement ils étaient en nombre, quasiment deux fois moins, 580 000 d'un côté, 1 million de l'autre. Mais en plus, au niveau du matériel, porter le bouclier et la lance, tirer de l'arc. Et en face, il est dit, verset 8, ils avaient 300 chars. Vous voyez, ça situe un peu que même au niveau matériel, ils étaient bien mieux équipés, les autres en face. Non seulement ils avaient le nombre, mais ils avaient un meilleur équipement. C'est comme si ils avaient été en deux chevaux, les autres en face, ils avaient une Ferrari. Vous voyez, c'est un peu pareil. Vous voyez. Et pourtant, c'est eux qui ont remporté le combat. Voyez, là encore, le ballottage était défavorable. La tendance disait rien qui vaille. Mais parce qu'ils se sont confiés en Dieu, Dieu est intervenu et c'est eux qui ont remporté la bataille. Et vous allez encore un petit peu plus loin. 2 Chroniques chapitre 16. Là, c'est le moment où Asa, ce même roi, va un peu mal finir. On en parlera dimanche. Il va un peu mal finir. Et Dieu va lui rappeler. Regardez 2 Chroniques 16, verset 8, il va lui dire ceci. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée et avec des chars et une multitude de cavaliers, et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Vous voyez, parce que ce n'est pas une affaire de tendance, de chiffres, de statistiques, ce n'est pas une affaire de ça. C'est une affaire d'abord de cœur. C'est une affaire d'abord de relation avec Dieu. C'est une affaire de communion avec Dieu. C'est une affaire de crainte de l'Éternel. C'est d'abord ça. Et je crois que c'est important de le rappeler. Parce que parfois, on se retrouve dans des choses où c'est vrai que si on regarde avec nos raisonnements, si on regarde un peu avec nos yeux humains, si on regarde un peu la tendance, les statistiques, le pourcentage, enfin, le nombre, quoi, vous dites, là, on est mal embarqué. Vous voyez, on est mal embarqué. Vous voyez. Mais avec Dieu, ce n'est pas une affaire de chiffres. Je crois que ça, c'est important. Ce que j'aime ici dans le texte qu'on a lu au départ, dans 2 Chroniques 13, et j'y reviens, c'est ce que Abija va dire à Jéroboam. Alors, pour la petite histoire, on l'a lu, mais bon, peut-être que vous n'avez pas fait attention. Jéroboam, c'était le gars qui s'est... Vous vous rappelez, quand après Salomon est arrivé Roboam, c'est celui qui, est, malheureusement, qui n'a pas su écouter le conseil des vieillards, qui a écouté le conseil des jeunes gens. Et puis, à partir de là, il y a eu le schisme en Israël, vous vous rappelez. Et donc, Jéroboam, c'est lui qui a fabriqué, à un moment donné, plutôt que d'aller adorer à Jérusalem, c'est lui qui a fait faire des veaux d'or, voyez, pour que le peuple se prosterne devant lui. Il savait que Dieu avait donné des ordres pour les sacrificateurs. Il fallait que ce soit de la tribu de Lévi. Lui, il a dit, mais qui veut le faire? Venez, vous voyez. Donc, il a fait n'importe quoi. Et au verset 9, j'y reviens, de Chroniques 13, verset 9, Abija va lui dire, « N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Ne vous êtes-vous pas fait des prêtres comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être consacré, devenait prêtre de ce qui n'est point Dieu. » Autrement dit, il est en train de leur dire, « Mais finalement, celui qui avait envie, ben, il devenait prêtre. » quoi. Voilà. Vous voyez, donc, c'était n'importe quoi. Et il va lui dire, verset 10, « Mais nous, par contre, nous, l'Éternel est notre Dieu. » Et vous l'aurez toute la suite, il dit, « Nous, on a fait ce que Dieu commandait. Nous, on ne s'est pas détourné, on n'a pas fait à notre tête, on a obéi au commandement de Dieu. » Voyez, on a obéi, voyez. Autrement dit, il est en train, nous, on est resté dans l'obéissance. Nous, on n'a pas voulu se détourner du Seigneur, nous, on a marché dans la crainte de Dieu. Voyez. Et quand vous lisez la suite, ben, c'est à cause de ça qu'ils ont été vainqueurs. Voyez. Et la grande leçon pour nous, c'est que mon frère, ma sœur, dans nos combats, dans toutes nos difficultés, face à tout ce qui s'élève contre nous, ce qui est important, c'est de veiller sur notre état de cœur, sur notre relation avec Dieu, sur notre communion avec Dieu, sur notre crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu, c'est un baromètre dans notre vie, hein, de veiller sur ça. Parce que c'est toujours ça qui fera la différence. Ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas la tendance, ce n'est pas ce que la situation nous montre ou ce que le diable veut nous montrer. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment moi, je me comporte avec Dieu. C'est ça qui est important, voyez. Et dans ce contexte-là, oui, c'était pas évident. Ils étaient deux fois moins, voyez. C'était pas évident, mais ils se sont appuyés sur Dieu. Et face, dans nos combats, c'est la même chose. Oui, Seigneur, c'est pas évident. Je comprends pas tout. Je sais pas pourquoi je vis ça. Je sais pas pourquoi je passe par là, Seigneur. Mais je veux te faire confiance, parce que je sais que c'est pas une affaire de chiffres. C'est pas une affaire de statistiques, voyez. Ce qui fera la différence, c'est ailleurs. Voyez, c'est ailleurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça, vous le retrouvez dans notre texte, voyez, dans notre passage. Alors, par exemple, vous connaissez bien Gédéon, l'histoire de Gédéon. Vous rappelez, on ne va pas tout lire, hein, je vais un petit peu rappeler l'histoire. C'est ce fameux combat où Dieu va écrémer l'armée. Alors, je vous donne le chiffre, l'armée de Gédéon se composait de 32 000 hommes. Et Dieu va dire, il y en a trop. Vous êtes trop nombreux. Vous avez déjà vu ça, vous? On dit, vous êtes trop nombreux. En général, c'est plutôt, il n'y en a pas assez. Hein. Vous voyez? Vous êtes trop nombreux. Que ceux qui ont peur s'en aillent. Et la Bible dit qu'il y en a 22 000 qui vont partir. 22 000. Vous voyez? Ouais, donc 32 moins 22, ça fait 10 000. Il n'en reste plus que 10 000. Donc peut-être, je ne sais pas, quand ils ont vu partir ce chiffre impressionnant, ils se sont dit, mais Womba, là. Womba. Et puis Dieu va dire, il y en a encore trop. Hein? Vous imaginez, mais fait, moi j'essaie de m'imaginer la tête de Gédéon, il y en a trop. Et puis vous rappelez que finalement, au bout du compte, il en reste 300. Il n'y en avait pas beaucoup, hein? 300 sur 32 000. Voyez? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y avait en face. Et ce qu'il y avait en face, regardez, je prends juste les versets qui m'intéressent. D'abord, Juges chapitre 7, verset 12. Ce qu'il y avait en face, c'était Madian, Amalek, et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Voyez ? Et c'est là que Dieu dit, il y en a trop. Il y en a trop. Là, vous avez envie de dire, je dois avoir un problème d'oreille, je ne dois pas bien entendre. Voyez, il y en a trop. Et si vous allez un petit peu plus loin, vous avez le nombre exact. Vous avez le nombre exact. Vous savez que dans ce combat-là, Gédéon va avoir la victoire. Et une fois qu'ils ont la victoire, on sait le chiffre exact qu'il y avait en face. Regardez, Juges chapitre 8, verset 10. Il est dit, Zébach et Tsalmuna étaient à Carcor et leur armée avec eux. Environ 15 000 hommes. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. Il n'en restait plus que 15 000. Et regardez, 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Donc 120 000 plus les 15 000 qui restaient, ça fait 135 000. Ils étaient 135 000 en face. Contre 300. J'ai envie de dire contre 300 pèlerins. Contre, vous voyez, un panier de figues, quoi. Et, c'était. Vous vous dites, mais c'est dingue. Cette affaire, elle est dingue, vous voyez. Et en plus, quand vous regardez les détails, alors l'armée, cette armée-là de 300, elle était équipée d'une manière un peu particulière, avec des cruches et des flambeaux. Bon, je ne vais pas dire ce que je pense, mais avec des cruches et des flambeaux, ça devait payer quand même, cette armée, vous voyez. Bref. Et c'est eux qui ont remporté le combat. Voyez, vous rappelez qu'ils vont. Gédéon leur avait dit, vous allez tous crier, tous à Gédéon et à l'Éternel, tout ça, vous allez briser les cruches. Ça a dû faire un vacarme. Et ils ont tous eu peur, ils se sont tous entretués. Voyez, mais pourquoi? Parce que ce n'est pas une affaire de chiffres. Ce n'est pas une affaire de statistiques, ce n'est pas une affaire de tendance. Vous avez remarqué aujourd'hui, moi la seule chose que je regarde à la télé, c'est les infos. On peut se tenir informé, mais on ne vous parle que de chiffres. Il y a une manif, on vous dit, ils étaient tant. Il y avait 30 000, machin, tout ça. Quand on est en période d'élection, qu'est-ce qu'ils regardent tous? Ils regardent tous la tendance, à combien on est, c'est quoi les chiffres, voyez. Alors, c'est 30% de bonnes opinions, 45%, tatati, tatala. On ne vous parle que de chiffres aujourd'hui. Voyez. Et regardez bien, le chômage, il est à tant de pourcents. On ne vous parle que de ça. Et c'est vrai que, quelque part, inconsciemment, ça ne rend pas compte, mais ça influe sur nous. Parce que, après, dans notre vie de tous les jours, quand on retranscrit ça face à nos situations, on se dit « Ouh !» Ça me dit rien qui vaille, ça sent pas bon, la tendance, les statistiques font que... Des fois, on vous dit, non, mais ça marche, ça peut pas marcher, ça marchera pas, voyez. Mais c'est pas une affaire de chiffres, c'est pas ça. C'est d'abord une affaire de marcher avec Dieu. C'est une affaire de cœur, c'est une affaire de communion avec Dieu, de relation avec Dieu, de crainte de Dieu, de désir d'obéir à Dieu et à sa parole. C'est ça qui fera la différence. Après, les chiffres, les tendances, c'est Dieu qui va s'en occuper. Et même si tout nous dit que oulala, ça sent mauvais, ça sent pas beau, vous inquiétez pas, ça c'est pas votre problème, c'est pas le mien, c'est celui de Dieu. C'est celui de Dieu, voyez. Et ça, vous le retrouvez même dans le Nouveau Testament. Même dans le Nouveau Testament. Alors bon, vous connaissez bien cette histoire, on va lire 2-3 versets, la multiplication des pains. Mais c'est pareil. C'est pareil, Luc chapitre 9, verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Donc la tendance, elle n'est pas bonne. Le lieu, il est désert. Et les disciples, ils ont vite fait le calcul. Hein. Tchouk, 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 tchouk. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on a? Et regardez la suite. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Vous voyez, ils comptaient, eux. Ils avaient déjà cogité le truc. Vous voyez, mais on est comme ça, nous. On cogite les chiffres, les trucs. Bon, on calcule, on va faire comme ça. Ça va passer, ça passe pas. Ça... Vous voyez, mais avec Dieu, c'est pas ça. C'est pas une affaire de chiffres. Vous voyez. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50 et vous connaissez la suite. Et tout ce qui va se passer. Vous voyez. Là encore, vous savez, dans tous ces textes, où il est question de chiffres. Mais c'est là pour nous amener à prendre conscience de ça. C'est que c'est d'abord une affaire d'obéissance. C'est d'abord une affaire de soumission au Seigneur. Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais bon, je sais que si toi tu as décidé que ça passe, ça passera. même si tout me dit, la tendance me dit que ça passera pas. Ben, si toi tu as décidé que ça passe, ça passera. Voilà. Et les hommes, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire que c'est pas possible, que c'est impossible, que ceci, que cela, que statistiquement, eh ben, mais ça, Dieu, il s'en fiche de ça. Ce qui est important, par contre, c'est moi. C'est ma relation avec Dieu, c'est ma communion avec Dieu, c'est ça. C'est ça. Et je voudrais nous encourager les uns et les autres. Je sais, bon, il y a des choses qu'on sait, il y a d'autres qu'on ne sait pas, mais on est tous confrontés à des situations compliquées. Oh là là, depuis combien de temps? Oh, ça fait 20 ans que je lui parle et il est toujours dur, il est toujours fermé. Et vous voyez, les chiffres. Hein, les chiffres, oh là là. Pff. Et alors? Et alors? Vous voyez, pour Dieu, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. C'est pour ça que tous ces textes sont intéressants, parce qu'ils sont là pour nous encourager les uns les autres à dire, Seigneur, aide-moi à ne pas regarder aux chiffres. Voilà. Parce qu'on a été formaté comme ça. Bon, ben c'est la vie, hein. on est pieds sur terre. Mais à un moment donné, Seigneur, je veux voir les choses différemment, d'une autre façon. Il y a ce récit que j'ai pendant des années, j'ai eu du mal à le comprendre. Mais maintenant, je comprends. Quand Paul dit qu'il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. J'ai toujours du mal à comprendre ça, qu'est-ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, je comprends que Seigneur nous parle d'une position spirituelle. Vous avez remarqué comme moi que quand vous voyez un problème d'en haut, c'est pas pareil. Ça, c'est comme quand vous êtes dans l'avion. Hein. Et quand vous êtes dans l'avion, vous regardez, c'est petit, petit. C'est petit. Quand vous êtes à la même hauteur, c'est... Oh, voyez. Donc c'est la même chose, mais vous n'avez pas la même vision. Et le Seigneur, quand il nous a sauvés, il nous a mis sur une position élevée pour que... Oui, les choses, on ne les nie pas, elles sont là, mais je ne veux pas les regarder avec une vision purement humaine, avec mes yeux purement charnels, en me disant, oulala, statistiquement, la tendance, si Dieu veut que ça passe, ça passera. Si Dieu veut que ça marche, ça marchera. Si Dieu a dit c'est ok, c'est ok. Et qu'importe ce que les hommes peuvent faire, ce qu'ils peuvent dire, quand Dieu a décidé quelque chose, il le fait. Alléluia. Mais ma part à moi, c'est de dire, Seigneur, je veux pas commencer à me laisser miner par des pensées négatives. Et là, on est tous logés à la même enseigne, et moi le premier. Je veux pas commencer à me laisser remplir par les pensées négatives. Seigneur, je veux regarder qu'à toi et je veux soigner ma relation avec toi. Après toi, tu feras le reste. Ce que tu as à faire, tu le feras. Les chiffres, c'est pas mon problème, c'est les tiens. Franchement, moi, ça m'arrange. Ouais, amen. D'ailleurs, je vais terminer, mais rappelez-vous. Alors là, c'est dans l'autre sens. C'est marrant parce que c'est. Vous voyez, on peut vivre une autre situation dans un autre sens. Là encore, il est question de chiffres. Vous vous rappelez, bon, je le dis à chaque fois, mais ça me fait plaisir d'ailleurs, la bataille de Haï, le peuple d'Israël, ça a été Haï, Haï, hein. Ça me fait plaisir de le dire. Voilà, ça fait... là, par contre, les chiffres étaient bons. Les chiffres étaient bons. Vous voyez ? Il y a des fois, c'est bon. Hein ? On se dit, oh, ça va passer tranquille, ça, et puis ça passe pas. Ah, des fois, mais pourtant, c'était bon. Oh, pourtant, tu avais dit oui, pourtant ceci. Puis paf, la porte s'est fermée sur le nez. Voyez ? Et là, dans cette histoire, vous rappelez, ils viennent de battre Jéricho. Une victoire éclatante, les murailles sont tombées, là aussi c'est une histoire de fou, hein. Les murailles sont tombées, gloire à Dieu, parce que Dieu fait ce qu'il veut, hein. Les murailles, pff, il les fait tomber, et puis ils arrivent devant Haï, et là ils se sont dit, pof, rigolade quoi, hein. Rigolade, rappelez-vous, on va le mettre, Josué chapitre 7, versets 2 et 3, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel, il leur dit « Montez, explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Et là, regardez, ils revinrent auprès de Josué et ils dirent « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. » Et voilà. Et là, vous avez des chiffres. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Alors là, c'est l'inverse, vous voyez. Là, la tendance, elle est bonne. Et ils se sont dit « Là, on va s'en faire un gueuleton. » Là, c'est finger in the noise, ça va être tranquille, ça va être sans problème, même les yeux fermés, peut-être même on va se mettre une main dans le dos, hein, on va se prendre à cloche-pied, on va y aller, tranquille, 2 ou 3 000, ça suffit. 2 ou 3 000, ça suffit. Sauf que vous lisez la suite, et ils se sont fait massacrer. Et il y a eu des morts. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a été une catastrophe. Parce que ils y sont allés avec suffisance, avec arrogance, avec orgueil, avec présomption. Vous voyez, ils ont été présomptueux. Ils ont compté sur eux, sur leur propre force. Et puis ça a été une catastrophe. Parce que ce n'est pas une affaire de chiffres. Mais dans un sens comme dans l'autre. Vous voyez? Dans un sens comme dans l'autre, voyez. Et je me disais, veillons sur nous-mêmes, parce que, vous savez, ça peut nous arriver des fois. Ça peut nous arriver des fois. On peut passer par une situation difficile et puis dire, oh non, mais ça, bon, on va prier. Non, non, mais t'inquiète pas. Moi, tu sais, j'ai de l'expérience. Ça fait 20 ans, 25 ans que je marche avec Dieu. C'est pas ça qui va me faire peur. Quand on commence à parler comme ça, attention. Attention. Vous voyez. Parce qu'on est et on demeure et on reste des hommes. Voilà. Et même si on a 20 ans ou 25 ans ou même plus ou 40 ans de conversion, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, on ne s'en sortira pas. Voyez. Et là, à un moment donné, ils se sont vus un peu trop beaux, voyez, ils se sont appuyés sur eux, hein, et ils ont dit 2 ou 3 000, ça suffira. Voilà, on ne va pas donner toute la peine à l'armée, les autres ils vont se reposer, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là. Ouais, sauf que ça a été la défaite, voyez. Et ça a été terrible derrière. Et vous lirez la suite, c'est très intéressant. Parce que derrière, Dieu leur a dit, vous allez y retourner. Et Dieu n'a pas dit 2 ou 3 000. Hein. Dieu a dit toute l'armée. Toute l'armée. Il a fallu que toute l'armée y aille. Vous voyez, donc, la façon de faire de Dieu et la nôtre n'est pas la même. Hein. Vous voyez, toute l'armée. Vous voyez, et ils y sont allés et ils ont été vainqueurs. Mais vous voyez, ce qu'on a vu dans un sens est valable dans l'autre sens. Vous voyez, mais c'est encore là un autre exemple pour nous rappeler que ce n'est pas une affaire de chiffres. C'est une affaire d'abord d'obéissance à Dieu. C'est une affaire d'état de cœur. Seigneur, dans ce combat, même si ça me semble bon, ben Seigneur, je veux te faire confiance, je veux faire selon Dieu, je ne peux pas commencer à m'emballer en pensant que ça va aller tranquille. Hein. Mais dans l'autre sens aussi, c'est pareil. Seigneur, même si tout me dit que, ben Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, te laisser t'occuper des chiffres, et moi, Seigneur, je vais m'occuper de ma relation avec toi, de marcher dans la crainte de ton nom, d'obéir à ta parole, de faire ce qu'elle me dit. Après, tu t'occuperas du reste. Voilà. Hein. Et je voudrais que ça puisse nous encourager les uns et les autres. J'aurais pu prendre d'autres textes, je vais m'arrêter là parce que vous avez des tas de textes, notamment dans l'Ancien Testament. Vous voyez des chiffres qui nous sont donnés, mais qui ne sont pas là pour simplement faire beau, mais qui sont là pour nous montrer que ce n'est pas une affaire de chiffres, pas une affaire de résultats, de pourcentage. C'est d'abord une affaire de cœur, de marche avec Dieu. Et je voudrais nous encourager les uns et les autres. Je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais comme on est tous logés à la même enseigne, soignons notre communion avec Dieu, soignons notre relation avec Dieu, soignons notre crainte de Dieu, ayons ce désir d'obéir à sa parole, de dire Seigneur je veux faire ce que tu me dis, je ne veux pas commencer à me départir à droite à gauche, à essayer de faire moi comme j'ai envie, ou d'essayer de te donner un coup de main ou je ne sais pas trop quoi. Seigneur, toi les chiffres, les tendances, tu t'en occupes, les statistiques, tu t'en occupes, ce n'est pas mon problème. Moi Seigneur, je veux marcher avec toi. Et Dieu va nous aider, hein. Et ça va nous éviter bien des découragements. Ça va nous éviter bien des peurs, bien des craintes, bien des angoisses. Ça va nous préserver. Quand on a compris ce principe-là, mais quand je dis comprendre, ce n'est pas le sens simplement théorique, vous voyez, de la tête, mais dans le sens spirituel du terme. Quand on a compris ça, ben on combat plus de la même façon. On vit plus de la même façon. On dit, bon, Seigneur, écoute, moi, je ne vais pas me prendre la tête, hein, parce que sinon, je vais couler, sinon, je vais m'enfoncer. Seigneur, toi, tu t'occupes de tout ce que mes yeux me montrent, tous ces chiffres-là, tous ces trucs-là, tu t'en occupes. Hein. Après moi, Seigneur, je vais m'occuper de toi. Et après, Dieu fera ce qu'il a à faire. Après, Dieu, il fera comme il veut, quand il veut, où il veut. Il nous étonnera peut-être, parce que nous l'oublions pas. Il est celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alors, Seigneur, voilà, c'est de ça dont je veux m'occuper. Je voudrais nous encourager ce soir, voilà, à porter vraiment notre cœur au Seigneur, dire Seigneur, aide-moi. Aide-moi, parce qu'on est sensible à ça, hein, tout ce que nos yeux nous montrent. Voilà. Alors Seigneur, je veux vraiment regarder à toi. Je voudrais qu'on prenne quelques instants là pour prier devant le Seigneur, parce que je sais qu'on a tous nos luttes, on a tous nos combats, on a tous les uns et les autres dans un domaine ou dans un autre. Mais Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à rester mes yeux fixés sur toi, m'appuyer sur toi, compter sur toi, hein, et pas regarder, pas laisser tout ce que ces pensées négatives que le diable voudrait mettre dans mon cœur, qui vont me couler. Mais Seigneur, je veux m'attendre à toi. Alléluia. Seigneur, ce soir, les uns et les autres, nous sommes devant toi. Et je te demande ta grâce, Seigneur. Je te demande ton aide, ton secours, parce qu'on n'est pas plus forts les uns que les autres. Et si tu nous as laissé ces récits de ta parole, c'est pour que vraiment, dans nos combats aujourd'hui, Seigneur, dans nos luttes, dans toutes ces choses qui se dressent devant nous, qui sont là comme des hauteurs qui s'élèvent devant nous, Seigneur, nous voulons regarder à toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous concentrer sur toi, Seigneur. Nous voulons vraiment nous appuyer sur toi, marchant dans la crainte de Dieu, Seigneur, et que vraiment tu nous aides, Seigneur, les uns les autres. Peut-être ce soir, quelqu'un a besoin d'être ranimé dans son courage, dans sa foi, Seigneur. Peut-être quelqu'un est dans la peur, Seigneur. Tu renouvelles, sa foi, Seigneur. Tu lui fais du bien, tu rassures, Seigneur. Merci, merci pour ta parole qui vient là pour nous faire du bien, pour nous fortifier. Seigneur, je te bénis encore ce soir, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alors, si on vous devait lever la voix, faites-le.